Et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase, ton émission du midi où on te parle des nouvelles les plus importantes. On analyse l'actualité, la politique pour toi. On va avoir une belle analyse à faire sur l'élection partielle hier dans Chicoutimi. Victoire du PQ, Parti conservateur du Québec qui se classe deuxième avec un fort pourcentage. Pas d'effet Charles Milliard. On va jaser de ça avec la collègue Antonine Iaccarini dans le caucus dans quelques instants. Sinon, pour nous joindre, vous le savez, et je vous le répète, 418-971-1021, continuez à participer en grand nombre. On aime toujours ça, avoir votre opinion sur les sujets qu'on discute. J'aime beaucoup lire des textos en ondes. On tente de répondre à plusieurs durant l'émission. BLVD.fm, c'est la web radio, c'est les meilleurs moments également de l'émission. Donc, on va entre autres avoir à l'émission une journaliste du journal, de la revue, devrais-je dire, Protégez-vous, qui va venir nous parler d'une enquête qu'ils ont faite concernant les RPA, les résidences pour personnes aînées. Et ils ont joué au client mystère, c'est Marie-Ève Schaeffer. Ça ne pas manquer parce que si vous avez des parents que vous allez être obligé de placer dans des RPA, là, vous allez comprendre que ça coûte très cher et que c'est pas toujours facile. Donc, ne manquez pas ça, ça va être aux alentours de 13h25 et ça va se retrouver par la suite sur le blvd.fm. twitch.tv/blvd/fm pour venir nous voir en studio. Également, vous pouvez télécharger l'application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. Haut-parleurs intelligents, les Google Home de ce monde, vous dites écoutez BLVD, vous nous entendez. Et abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 101. Vous revoyez des bons moments ce matin, notamment entrevue avec Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique du Québec, qui avait traité Bernard Drainville de Donald Trump. Vous avez ça sur la page YouTube. Et vous aurez aussi le caucus avec Antonine Iaccarini à la fin de l'émission. Pascal CV, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Cool, ça a bien été de remplacer Max dans le point de Max.
Absolument. Encore des super invités qui se sont joints au show. Fait que c'est le fun dans ce temps-là.
Magnifique.
L'émission est sur les nouvelles.
Ben oui, t'avais le chum Victor Henriquez qui était là.
Absolument. Moi, Victor, c'était un collaborateur à leur CV dans le temps. Mm-hmm. Fait qu'aussitôt qu'il y a de la nouvelle politique, je sais qu'on est en tôt
très
tantôt.
Bon.
On essaie d'avoir d'autres points de vue aussi.
Yes, sir.
Alors, Victor était bien prêt.
Va remplacer en tôt, d'ailleurs, jeudi, dans le caucus. Avant, justement, de passer au caucus, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? Les trois principales manchettes, s'il vous plaît.
C'est sûr que c'est un triste anniversaire aujourd'hui. C'est 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. On s'attendait assurément à faire des comptes rendus. Ça ajoute une prise de parole et une annonce de Mark Carney, premier ministre du pays. On entend fournir 2 milliards de dollars de plus en aide militaire à l'Ukraine. Ça va se faire dès cette année. Et aussi, on fait un don de 400 véhicules blindés aux forces armées ukrainiennes, tout en faisant en sorte qu'on a 3 ans de plus de mission du côté de l'entraînement des soldats ukrainiens avec nos soldats canadiens. Alors ça, c'est une annonce qui a été faite en début de journée. Ce soir, il faut surveiller. Trump prononce son discours sur l'état de l'Union. Discours qui vient à peu près très collé sur la décision de la Cour suprême sur les droits de douane et le renforcement militaire aux abords de l'Iran. Vous savez, il y a une fin de collecte de tarifs invalidés qui a été fêtée récemment. Ça avait été invalidé par la Cour suprême, mais Trump étant Trump, il a imposé une nouvelle surtaxe de 10-15%. Alors ça aussi, ce sera certainement dans le ton de ce discours ce soir. Élection partielle qui a été remportée hier par le PQ, on en reparle. Tramway de Québec, il y a un litige qui pourrait coûter 50 millions de dollars aux contribuables. On reviendra là-dessus. 3 compagnies aériennes canadiennes ont repris leur vol vers Puerto Vallarta aujourd'hui. Air Canada, Air Transat et WestJet. Je vous conseille par contre d'aller voir les technicalités de tout cela. Et c'est la fin du monopole de la SAQ pour la vente de prêt-à-boire à base d'alcool distillé. On pourra maintenant en trouver, entre autres, dans les épiceries et les dépanneurs du Québec.
Ah, très bonne nouvelle. Concernant justement le 50 millions, la poursuite auprès du gouvernement du Québec, on va avoir Denis Poliquin, président de la compagnie CSIT, tout à l'heure aux alentours de 12h50. Il va nous expliquer le bris de contrat qu'il a vécu. Et également, concernant le discours de Donald Trump, demain matin, 7h30, Luc Laliberté dans Marceau le matin. Et demain midi, midi 30, l'excellente Valérie Beaudoin également qui sera là pour analyser le tout. Alors, vous allez avoir l'analyse complète de ce discours ou sur les ondes de BLVD, la meilleure radio d'actualité à Québec.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini qui sera disponible sur la page YouTube. Anto, comment vas-tu?
Ça va bien, les lendemains d'élections partielles.
Ben oui, ça va super bien.
On aime ça, nous, analyser des élections partielles.
Mais hein, qu'on aime ça. D'ailleurs, je rappelle, hein, même si c'est très loin, le 2 octobre prochain, on va être en superbe soirée électorale à Boulevard. On va aller dans un endroit où vous allez pouvoir venir nous voir, prendre une petite consommation alcoolisée. Je vous le dis, vous ne voulez pas manquer cette soirée électorale. Ça va être extraordinaire.
Tu la publicises tellement que j'ai l'impression qu'on fait un open house et qu'il va y avoir comme vraiment beaucoup de monde.
Ah, ça va être écœurant, là, le monde, quand le PQ va être élu, vont se lever. Ah! Un pays!
OK, toi, tu colles déjà pays. Le gagnant, là. Si la tendance se maintient.
Moi, j'allais dire qu'il allait crier vive la politique, là, parce que...
Ouais, on va essayer de rester neutre.
Là, ils viennent de gagner les élections partielles de Chicoutimi. Mais justement, avant d'en parler, Antonine, je veux te faire entendre Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il y a plusieurs choses dans son discours que j'ai trouvé intriguant.
Les déclarations d'annexion à l'endroit de quelques pays que ce soit sont inacceptables. Et oui, il se passe des choses présentement aux États-Unis qui sont hautement condamnables. Et là-dessus, je veux être clair, un gouvernement du Parti québécois se tiendra toujours debout pour les Québécoises et les Québécois et ne pliera jamais face aux menaces américaines ni face aux menaces de quiconque. C'est une consultation qui aura lieu dans une fenêtre de
un référendum.
Ans. Puis on ne le sait pas, ce sera quoi le contexte dans 2, 3, 4 ans. On ne sait pas non plus où en seront nos voisins américains. Dans 2, 3, 4 ans, notamment suite à des élections américaines.
Ah, une consultation. Depuis quand le PQ sous Paul Saint-Pierre Plamondon utilise le mot consultation?
Mais peut-être que le mot référendum fait peur et que des fois on prend un synonyme. Tu sais, comme par exemple dans les dernières années, moi je me suis mis à moins utiliser le mot souveraineté que je trouvais un peu vieillot.
Ok.
Et je me suis mis à parler d'indépendance.
Ah,
tu sais, des fois, tu te rebrandes.
C'est vrai. Les bonnes compagnies font ça.
Ben oui.
À un moment donné, changent le slogan.
Exact.
Donc là, PSPP a adopté cette manœuvre-là politique. Il a dit maintenant, c'est une consultation.
Ben, je ne sais pas si on peut dire que c'est une manœuvre. C'est sûr que c'est un synonyme. Une consultation. Moi, c'est sûr que si la consultation ne consiste pas à vous demander de voter oui ou non à une question, là, c'est un recul.
Ouais.
Mais il y a pas mal de monde qui trouvait que hier on commençait à mettre de l'eau dans le vin du référendum. Donc, c'est pas tant le mot consultation que son message qui a passé, qui est que le PQ ne sera pas irresponsable, foncera pas tête baissée, il va évidemment gouverner intelligemment.
Alors, on est en train d'installer tranquillement le discours de ça nous prend des conditions gagnantes. Et pour installer les conditions gagnantes, ça nous prend un premier mandat de 4 ans.
Ben,
pour prouver à quel point on peut bien gouverner.
La question d'un gouvernement minoritaire, elle est posée à PSPP depuis longtemps. Et lui a tendance à répondre que c'est une question hypothétique et qu'il vise un gouvernement majoritaire. Mais c'est sûr que de faire un référendum dans un contexte de gouvernement minoritaire,
il fera pas.
Je lui offre la porte de sortie. Ne le fais pas.
Je lui conseille fortement.
Un conseil gratuit. C'est un conseil gratuit, mais je n'ai pas besoin de lui conseiller.
Ça serait un suicide politique.
Mais maintenant, la question du temps qu'il a abordé hier dans son discours est importante parce qu'il y avait deux messages à lancer. C'est que premièrement, il va arrêter de rejeter du revers de la main les anxiétés des gens par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis.
Mm-hmm.
Parce que, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand je suis anxieuse avec quelque chose, puis que j'ai un collègue de travail ou mon chum qui est comme « Ah, c'est pas grave, arrête de stresser. »
Ça fonctionne tellement bien.
Ou mon
chum
qui me dit « Calme-toi. »
Ah, ça fonctionne encore mieux.
Je me suis jamais calmée en me faisant dire « Calme-toi. » C'est pas ça qui désamorce.
Ça craint.
Merci, attendez, je vais sortir mon calepin.
Vas-y, prends des
notes. Ne le savais pas encore, Jeff. On est là pour
calme-toi,
toi.
Calme-toi, ça équivaut à prendre de l'essence et à le jeter sur le feu.
Tu ne dis pas ça, Jeff, à ta blonde.
Bravo. Tu dis souvent des vérités, et là, c'est une de plus.
Bon, ça, c'est des paroles de vérité, OK? C'est pas des fake news.
Parfait.
Mais quand on parle des anxiétés des électeurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire, ben non, là, ça n'a pas rapport, là, tes anxiétés, c'est de dire, vos anxiétés, elles sont valides. Maintenant, nous n'agirons pas sans prendre en considération le contexte. Moi, ce que je comprends, et ça fait des mois que le PQ répond ça, parce que moi, je leur pose souvent des questions sur justement leur plan pour le référendum. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en cas de gouvernement majoritaire, ils ont 4 ans. Trump, déjà l'automne prochain, il va avoir les élections de mi-mandat. Donc, on va avoir des données supplémentaires sur le pouvoir d'action de M. Trump et il y a des bonnes chances qu'il soit affaibli pendant les élections de mi-mandat. Et après ça, ben, il y a une fin au mandat de Donald Trump. Les choses peuvent changer dramatiquement. Donc, moi, ce que j'ai entendu hier, c'est un chef qui a arrêté d'invalider l'anxiété américaine et qui a validé le sentiment des gens. Et je pense que c'était vraiment la chose à faire. Il a montré qu'il pouvait être un peu à l'écoute parce qu'on le trouve un peu inflexible des
Pourquoi
fois.
Pourquoi ça a changé? Ça sort d'où maintenant, ce changement de cap-là?
Bien, écoute, je pense qu'à la suite de leur dernier congrès, il avait décidé de fesser dans le tas là, puis d'attaquer Mike Carney beaucoup, beaucoup. Hein. Vous vous rappelez, là, c'était à la suite du discours sur les plaines où Mike Carney avait comparé la conquête à un grand party costumé. Et il a été très agressif. Puis là, on parlait de colonialisme, puis le fédéral qui veut nous faire disparaître.
C'est agressif aussi avec les artistes, là, Plamentrice, etc.
Il y a eu aussi cette histoire-là. Et M. Saint-Pierre Plamondon a aussi perdu son directeur de cabinet récemment. Et à l'interne, il semble que ça brassait des fois sur, disons, le fait d'écouter ou non les gens autour de lui.
Mm-hmm.
Et que des fois, t'es un peu dans ta bulle. Hein. Puis il y a beaucoup de gens qui te disent bravo. Quand t'es patron de n'importe quoi, que ce soit un parti politique ou d'une entreprise, mon ancien patron disait « être PDG, c'est la job la plus seule ». Là, je fais une mauvaise traduction, c'est en anglais, mais « CEO is a lonely job », parce que tout le monde te liche, excusez. Là.
Non, mais c'est vrai.
Tout le monde te dit « ah, oh, bravo, bravo, ah, oh, t'es bon, bravo, t'as raison, mon Dieu que t'as raison, t'as raison ». Donc, quand t'es en face de toi, des gens qui disent que je pense qu'on n'est pas à bonne place présentement, là, faut écouter, sortir de notre bulle, ben c'est précieux, ça, dans l'entourage d'un
D'abord,
chef.
Ces gens-là.
Oui. Et là, j'ai l'impression que... Il y a des gens qui ont dit, là, je pense que c'est le temps de donner un petit peu de lait sur la question des États-Unis et d'être un peu plus rassurant plutôt qu'être frondeur puis être à l'attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'être un peu plus comme, hey, on n'est pas fou, OK? On va gouverner correctement.
Il y en a un qui a été frondeur. Il y en a un qui a été frondeur à ça, c'est Bernard Drainville. Je ne sais pas si vous avez vu sa publication il y a quelques heures / sur Facebook. Puis il y a beaucoup de gens qui la rapportent dans le discours que tu amènes. Je trouve que c'est le meilleur moment de le dire puis de l'annoncer, mais... Il a un peu joué sur le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon, il suivait plus sa ligne, puis il est en train de changer de discours, ce qu'on reproche beaucoup à la CAQ.
Il l'accuse de reculer.
Et il trouve ça vraiment déplorable. Puis bon, bien sûr, il joue là-dessus. Tu sais, la CAQ est arrivée troisième et de très, très loin face au PQ à Chicoutimi. Il dit c'est un double discours, un marché de dupes. PSPP n'est pas fiable.
Bien, en fait, il y a pas mal de monde aujourd'hui qui commence à mettre l'étiquette de recul. Jeff, tu faisais la blague en début de,
ben oui.
en début de segment en disant que
ben, c'est parce que
on
le
commence
discours
à prendre
a changé,
un petit peu la sortie. Là.
Le discours a changé, mais d'un autre côté, tu sais, si je me fais pragmatique, c'est normal que le discours change.
C'est la chose
il
à faire.
Il s'en va à l'heure actuelle vers un gouvernement minoritaire en frappant coûte que coûte sur le référendum dans le premier mandat.
Oui, mais moi, je ne le voyais pas comme un recul. Mais bon, on peut s'obstiner là-dessus. Mais c'est sûr que Bernard Drainville veut montrer que lui, il va montrer à ses membres desquels il veut avoir les votes, que lui, il va être à l'attaque avec le PQ puis qu'il ne va pas le laisser partir avec le ballon. Mais c'est sûr que venant de Bernard Drainville, c'est un drôle de messager parce que c'est quelqu'un qui a changé dramatiquement de discours sur la question de la souveraineté dans les dernières
années.
Donc, quand on lit les commentaires en dessous de la publication, il se fait traiter de vire-capot, puis c'est pas mal ça.
Un des grands gagnants hier de l'élection partielle à Chicoutimi, c'est Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec qui finissent deuxième avec tout près de 25 % des votes. Et ce matin, dans Marceau le matin, je lui ai posé la question, est-ce que vous croyez que ça va vous permettre d'aller solliciter et surtout d'avoir des candidats plus crédibles à la prochaine élection générale?
Je l'espère. Puis c'était ça le but. On a mis une bonne candidate, ça a payé. Il faut bonifier notre équipe de candidats et candidates en vue de la prochaine élection. Vous le savez, je vais même aller avec elle dans vos studios. Moi, je courtise, par exemple, une fille comme Maïté Blanchette-Bézina, là, qui est l'ancienne ministre de la CAQ. C'est le genre de candidature qu'on a besoin. Le Parti conservateur du Québec, je ne sais pas juste moi, il faut qu'il y ait une équipe solide.
Est-ce que le PCQ peut vraiment rêver à une coupe de candidats en région, pas juste à la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches?
Moi, je pense que oui, c'est ce que
je suis convaincu, moi aussi.
Hier. Puis, moi, je regardais les sondages. En fait, il y a eu un sondage dans Chicoutimi en janvier, là, le 22 janvier, si je ne m'abuse, et il sous-estimait un peu le Parti conservateur. Okay? Donc, il était pas mal target sur le PQ, qui était autour de 45 %, mais il mettait le PCQ plus autour de 20 %.
Oui.
Et j'ai l'impression que les gens qui regardaient, parce que les sondages, ça influence les gens aussi, il ne faut pas se le. Il regardait ça, il se dit « OK, ben si moi, j'aime pas le PQ, vers qui je me tourne? Ou si je ne suis pas souverainiste, vers qui je me tourne? Ouais. Et au lieu de se tourner vers la CAQ, le PLQ ou QS, on a vu un transfert de vote, là, carrément, et c'est le PCQ qui a ramassé les points supplémentaires, puis les autres en ont perdu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont dit, OK, l'alternative dans Chicoutimi, c'est vraiment le Parti conservateur d'Éric Duhaime. C'est une grande victoire pour lui, même si c'est une défaite dans la circonscription, parce que ça démontre qu'il a réussi à imposer le Parti conservateur comme une force politique et à survivre à toute la législature sans avoir de député. Et on savait que c'était un énorme défi pour lui et c'est réussi.
Tu as tellement raison. C'est-tu la mort pour le PLQ?
Non, pas du tout, parce que Chicoutimi, ça n'a pas été libéral depuis 1935.
Oui, mais là, si ça, le PCQ là... commence à attirer les fédéralistes...
Bien, c'est très différent. Je pense que la clientèle entre le PCQ et le Parti libéral, c'est très différent. Moi, je trouve que la guerre se fait plus entre la CAQ et le PCQ présentement, puis même entre le PQ et le PCQ. Donc, le Parti libéral, s'il continue de travailler... Il faut se rappeler aussi, le Parti libéral, il y a comme 25 comtés gratuits, même s'il présente des plantes vertes. Okay?
Oh, oui.
Donc, il part déjà avec une longueur d'avance. Mais avec le nouveau chef, on va voir s'il est capable d'aller reconnecter avec les régions. Moi, je pense que dans certaines régions comme l'Estrie, l'Outaouais, ils vont réussir à aller chercher des députés dans ces régions-là. Mais le Parti conservateur est compétitif Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire à Appalaches, Québec, et il a montré qu'il était compétitif au Saguenay aussi. Puis Éric Duhaime aussi, il y a le West Island de Montréal qui, lors de la dernière élection, mettait quand même un petit peu d'énergie parce qu'il considère qu'ils n'ont pas d'alternative. Dans le West Island, c'est les libéraux, là.
En effet.
Donc, il essaie d'aller chercher des bons résultats. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue. Les libéraux, là, c'est comme un abonnement à vie.
Oui, bien, on le voit très bien. Là. Le mari de Marois Risquier, Gregory Kelly, a décidé de rester dans le caucus parce que c'est une job à vie qu'il a, comme son père l'a eu.
Il pourra le léguer à son fils, Gabriel.
Oui, c'est vrai.
Éventuellement.
Ah, ça va être beau.
J'ai Kelly 3.
Troisième génération. tu viens d'effleurer la CAQ, justement. Je te laisse entendre qu'est-ce que Christine Fréchette a dit sur les ondes de Mario Dumont ce matin à la suite de cette élection partielle dans Chicoutimi. On ne se le cachera pas. La CAQ avait été élue à 62 %
le champ de drop.
À manger une rince.
Moi, je pense que pour beaucoup d'électeurs, la CAQ n'était pas, à courte échéance, une option. Mais avec un changement qu'on est en train d'opérer au leadership de la CAQ, moi, je pense qu'on va redevenir une option. Puis c'est ce que j'entends sur le terrain. Je fais la tournée du Québec. Hier soir, j'étais dans les Laurentides. J'ai été à Repentigny, à Terrebonne, à Magog, à Rivière-du-Loup. Et partout, j'entends que les gens me disent « Ah ben là, avec le changement qui est en train de s'opérer, je vais reconsidérer la coalition Avenir Québec. » Et à tous les événements que j'ai organisés ces dernières semaines, j'ai des gens, quatre encore hier soir, qui me disent « Jamais j'ai été membre d'un parti politique. Je viens de m'acheter une carte. Je veux vous supporter, Mme Fréchette. »
Tu sais, d'habitude, je te dirais, ouais, elle pète de la broue un peu, mais là, le dernier sondage, 28 députés, si c'est Christine Fréchette qui est élue, on a connu l'effet Mark Carney au niveau du Parti libéral du Canada. Moi, je pense que la clé est là pour la CAQ, et même si j'aime bien la campagne que Bernard Drainville fait, même si j'aime bien qu'il fasse des propositions concrètes, on en parlait hier, ça passe par Christine Fréchette, la survie de la CAQ.
Bien, en tout cas, à l'heure actuelle, avec ce qu'on connaît d'elle, pour l'instant, les gens sont intéressés. Il y a un intérêt, une curiosité, une ouverture qui n'avait plus avec François Legault. D'ailleurs, tu savais que la CAQ va devoir changer de nom avec le départ de François Legault.
Je savais pas ça.
La formation politique s'appelle Coalition Avenir Québec-Équipe François Legault.
C'est comme ça que c'est enregistré.
Oui. On peut juste enlever le tiret?
Oui, oui, tu peux. Tu peux changer de nom de ton parti politique, mais il faut quand même faire l'opération auprès du directeur général des élections.
Mais on va
pas
rester la Coalition de Québec parce
bien
que je verrais mal que ça devienne, je ne sais pas moi, le Rassemblement populaire.
Non, ben, ou quoi, l'Union nationale, la nouvelle Union nationale.
Ah,
c'est Bernard qui gagne.
Mais est-ce que ça parle du leadership de François Legault ou non? C'est plus, c'est à ce moment-là, il fondait le parti puis il a mis son nom.
Non, ça parle sur la forme de ce parti-là qui était articulé autour de sa personne. Maintenant, pour le résultat dans Chicoutimi, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Premièrement, juste avec la candidature qu'il avait choisie, il ne misait pas gros. Et je ne dis pas ça méchamment contre Francis Tremblay, c'était un bon candidat. Il a fait un bon travail.
Il est super drôle, c'est un bon humoriste.
On l'aime beaucoup, puis il va pouvoir se représenter peut-être dans d'autres circonstances. Mais on ne s'attendait pas à ce que la CAQ fasse très bien. Mais 50 points, c'est sûr que ça dit beaucoup sur la situation du parti. Puis à chaque fois que tu fais une campagne comme parti politique, le 15 % est une barre importante parce que c'est en haut de 15 % que tu fais ce qu'on appelle tes frais. C'est-à-dire que tu as un remboursement de tes
frais.
Donc, c'est toujours une barre psychologique. Quand tu es en dessous du 15 %, c'est pas bon. Là.
Bien, parlant d'en dessous du 15 %, c'est Québec solidaire. Puis je te fais entendre ce député-là fédéral.
Il y a des choses qui sont des réflexions plus personnelles, disons, qui pourraient jouer là-dedans. La politique québécoise s'est déplacée vers plus à droite, vers une espèce de national-conservatisme, avec des attaques contre les services publics, avec des attaques contre les immigrants, contre les réfugiés, avec des attaques contre les droits également des travailleurs, des travailleuses, avec le projet de loi 3.
Ah, je sens tout ça. Au Québec à l'heure actuelle. Je suis vraiment stressé. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de mon Alexandre Boulris. Hey, si le NPD avait un chef, il le mettrait dehors, là. En plein point de presse du NPD.
Mais il n'y a pas de gêne en ce moment. Là, parce que le NPD, de toute façon, en ce moment, c'est complètement, je veux dire, sur les lignes de côté. Par contre, quelqu'un qui a besoin vraiment d'Alexandre Boulris, peut-être pas toi, mais le QS a besoin de bonnes candidatures.
Ben, je le sais, ils n'ont pas le choix.
Et c'est pour ça qu'ils ont changé leurs propres règles alambiquées là, pour accueillir Alexandre Boulris, qui est pour le moins flexible sur certaines prises de position. Je pense à la question nationale, justement, parce qu'Alexandre Boulris faisait partie d'un parti fédéraliste jusqu'à très, très récemment. Et là, il nous dit qu'au fond, dans son cœur, il a toujours été souverainiste.
Pourquoi pas?
Voilà.
Il vit ça chiffré de QS?
Peut-être, hein. Il est ambitieux, Alexandre Boulris. C'est quand même quelqu'un qui est connu, bien intégré dans son milieu, dans sa circonscription, puis qui a réussi à se faire réélire même après la disparition du NPD de la carte. C'est une bonne candidature pour Québec solidaire qui a bien besoin, avec tous les ténors du parti qui quittent, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, Christine Labrie notamment.
Antonine, on est dans le caucus Iacarini, qui est du lundi au jeudi à compter de 12h05 jusqu'à 12h30. Là, il faut qu'on se parle parce qu'on parle toujours d'immigration. Je suis tombé en bas de ma chaise. Je me suis étouffé avec mon café à matin. Je peux pas croire que sous le gouvernement libéral du Canada, on a dit à des demandeurs d'asile, « Ben oui, venez vous installer. Pas grave ton nom. Je te passerai pas en entrevue. Je connais pas ton passé, mais welcome to Canada. »
Mais Jeff, c'est tellement symptomatique des 10 dernières années. De gouvernement fédéral de Justin Trudeau.
Ah, c'est
là.
Justin Trudeau, c'est une catastrophe.
Plus
on va en savoir, plus ça va s'empirer, là.
Ben, en tout cas, il y a du travail à faire pour réparer ce système d'immigration parce que il faut comprendre que l'accueil des demandeurs d'asile, c'est pas juste un pays qui fait les règles. Hein. C'est une convention qui existe internationale et on accueille les demandeurs d'asile. Ils sont leur dossier est regardé et on décide s'ils deviennent réfugiés ou non. Juste préciser que quand ces demandeurs d'asile, en fait, sont dans le cadre d'un conflit international, par exemple une guerre, ils sont automatiquement des réfugiés. Là.
Donc,
c'est pas comparable aux boat people ou aux Ukrainiens. C'est des gens, ou aux Syriens il y a quelques années. C'est des gens qui sont automatiquement des réfugiés. Mais c'est plus des gens qui arrivent de pays en disant « Moi, je suis persécuté dans mon pays, ma vie est en danger. » Et là, on doit analyser leur dossier. Mais là, comment tu peux analyser un dossier s'il n'y a pas d'enquête, puis si tu ne rencontres jamais la personne, je suis mystifiée. Donc, à moins qu'il ait engagé Jojo Savard, puis je ne sais pas là, comment il fonctionne. Mais c'est tellement opaque, on ne le sait pas. Et je veux te donner un exemple très concret de cette opacité-là. Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Immigration à Québec, et des fois, il y avait des étudiants internationaux, par exemple, qui arrivaient de pays africains, qui devaient aller dans des cégeps ou des universités au Québec, et là, voyaient leur dossier refusé par Ottawa, donc ils n'avaient pas le visa pour rentrer, pour des questions de sécurité. On ne savait jamais vraiment les raisons. Et là, quand on sortait des médias ou qu'on chialait ou que le cabinet appelait à Ottawa pour dire « Écoutez, c'est un dossier qui est sérieux, nanana », il disait « Ah, OK, d'abord. » Puis là, il donnait une étampe puis là, il nous laissait passer parce que c'était dans les médias. Je ne comprends pas toujours pourquoi les décisions sont prises comme elles sont prises. Je rappelle aussi qu'il y a quelques années, on a perdu 25 000 dossiers de demandeurs d'asile qui avaient été refusés et qui ont disparu dans la nature et qu'on n'a jamais expulsé.
Ah,
il y a eu d'autres exemples.
Juste
je donne...
ça.
Ben, c'est un désordre complet, finalement. Et là, on apprend aussi que les services qu'on donne à ces demandeurs d'asile-là ben, coûtent très cher. Là, les conservateurs font une motion aujourd'hui sur le sujet. Les autres, ils veulent couper carrément dans les services. En fait, le problème, c'est que c'est tellement long, les processus. Et en ce moment, on accepte beaucoup, beaucoup de monde. On est un des pays du G7 là, qui accepte le plus de demandeurs d'asile. Là, on est rendu à 80 % des demandes. On commence à se demander si le processus se fait véritablement ou si on essaie d'accélérer en coupant finalement les coins ronds, en tournant les coins ronds. Et il faudrait vraiment réduire les délais, mais pas en bas de champ.
Ben non, c'est ça. Parce que là, c'était 3 ans pour recevoir un permis de travail. C'était sorti dans les médias. T'sais, ça n'a
pas d'allure.
Parce que pendant 3 ans, il vit sur ton aide sociale. Donc ça, ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas que le délai devienne à 3 mois sans faire d'enquête, parce que là, je peux avoir
ça,
des problèmes
le permis de
sécurité.
Travail, mais après ça aussi, il y a des gens qui ne sont pas des réfugiés. Okay? Ils n'ont pas une belle vie dans leur pays, puis j'ai beaucoup d'empathie, mais un demandeur d'asile puis un réfugié, c'est quand ta vie est en danger directement.
T'as raison.
Okay? Donc, comment ça se fait que ça prend des années avant qu'on décide si oui ou non quelqu'un est un réfugié ou non? Et pendant ce temps-là, ils s'installent ici. Des fois, ils travaillent, tant mieux. Mais après ça, tu vas les expulser?
Ben oui.
Après 3 ans? Ça n'a pas de bon sens humainement non plus.
Non, exactement.
Mais bon, écoute, c'est comme ça au fédéral. Hein,
oui, mais là, après ça, on se fait traiter d'intolérant quand on dit « Ouais, c'est une bonne idée, les seuils. Ouais, c'est une bonne idée de mieux gérer la situation. » Mais c'est parce que c'est un bordel total.
On n'a pas l'impression que c'est ordonné. On n'a pas l'impression que le système fonctionne. Et en plus, c'est opaque, puis on ne comprend pas les décisions d'Ottawa. Donc, je m'excuse, mais démocratiquement, il y a un enjeu ici. Et le problème aussi, c'est quand on ne répond pas à ces préoccupations-là, je vais faire le lien avec ce que je disais avec PSPP qui a décidé d'acquiescer à l'anxiété des gens. Les préoccupations sur l'immigration, si tu dis « Ah, vous capotez pour rien, vous êtes intolérant », en fait, ce qui arrive, c'est que les gens vont se tourner vers des partis populistes qui disent « Vous avez raison », puis là, qui tapent ces immigrants. Il faut que tous les partis politiques écoutent la population. Et en ce moment, la population, elle dit « Excusez-nous, on a l'impression que c'est n'importe quoi, notre système d'immigration. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre de l'ordre? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mettez-vous à la tâche. » Et dans les années Trudeau, on se faisait dire, genre par des Mark Miller, qu'on sait bien qu'on est des petits villageois intolérants là, au Québec. Là,
ouais, c'est ça. On est tous comme ça. Parlant de grands succès, justement, ou de bordel, ou de désordre, je vais te laisser choisir. Après avoir entendu Patty Adjou, qui est ministre de l'Emploi et des Familles pour le Parti libéral du Canada. OK, guys, les auditeurs, c'est une réponse en français. Elle lisait sa feuille, elle a au moins fait l'effort. C'est une députée de Thunder Bay en Ontario. Et on parle du système informatique Curam à 6,6 milliards. Est-ce un bordel ou est-ce un succès? On écoute Patty Adjou.
Le financement d'un projet de cette échelle n'est pas alloué une seule fois, mais plutôt par tranche. Le pouvoir initial du programme, d'un montant de 1,7 milliard de dollars, était pour lancer la première phase du projet et n'a jamais été conclu pour couvrir la restructuration complète de plusieurs prestations. Cet investissement va générer des gains d'efficacité et de fiabilité pour des années à venir.
Bravo!
Ça a été bien conclu.
Oui.
C'est un programme bien conclu.
Mais là, c'est parce que là, ce qu'on nous explique, c'est que, hey, vous parlez du 6,6 milliards, mais vous avez tort.
Exact.
Madame Normandin, Christine Normandin, qu'on a reçue sur nos ondes vendredi dernier, qui nous a expliqué, vendredi, il y a 2 semaines, qui demandait déjà une enquête publique, qui nous expliquait quoi? Vous avez mal compris? C'est parce qu'on a fait 1,7 milliard au début. Mais ça, c'était juste la première phase.
En fait, sont-ils en train de saucissonner comme ça clique?
Exactement. Donc là, il faut faire la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième phase.
Arrêtez de capoter.
Arrêtez de capoter.
On a juste dépensé 1,7 milliard.
Exactement. Puis là, ça va être 6,6 milliards. Mais hey, on va avoir des gains en productivité, en efficacité. C'est un investissement. On a besoin d'être productif en baptême pour rentrer dans notre investissement.
Ouais, puis parce qu'à date, ça ne marche pas. Ben, il y a des gens qui ne reçoivent pas leurs sous.
85 000 personnes aînées qui n'ont pas reçu leur prestations de vieillesse, donc leur pension, depuis 8 mois.
Moi, je trouve que c'est scandaleux. En fait, on essaie de mélanger le monde pour noyer le poisson. Le VG l'a dit qu'il y avait des dépassements de coûts.
Ouais.
Je m'en fous que les crédits soient dépensés, pas dépensés. Ça va coûter ça.
C'est ça.
Ça va peut-être être pire. Puis on nous disait, ah, oh, mais ça, c'est l'inflation. Je penserais pas que l'inflation, c'est 500%.
Non.
En tout cas, pas à ma connaissance, mais je suis pas
moi
économiste.
Moi non plus.
Donc, vraiment, les libéraux, hier, j'écoutais Stephen McKinnon, a dit que c'était un grand succès.
Oui, un grand succès. À 6,6 milliards de dollars avec 85 000 aînés qui n'ont pas leur pension. Et là, à l'heure actuelle, ça ne serait pas juste censé gérer les pensions de vieillesse, mais l'assurance-emploi aussi.
On s'en va vers un phénix numéro 2. En fait, c'est pire que le phénix.
Ben, c'est ça
que
j'allais dire. Moi, je trouve ça encore pire, même si c'était une catastrophe et une tragédie. Puis là, tu t'en vas dans une communauté, une strate de la population qui a peut-être un peu plus de mal à se défendre, à se faire entendre. Puis c'est des gens qui n'en ont pas nécessairement beaucoup dans les poches puis qui vivent un peu avec ces pensions-là pour subvenir à leurs besoins. Essentiel, c'est capoté, là.
Puis on manque de transparence. Dites-nous exactement telles quelles sont les choses. Moi, je me demande si le directeur parlementaire du budget pourrait pas faire un point là-dessus, honnêtement, parce que de nous pitcher n'importe quel chiffre puis dire « Ceci n'est pas un dépassement de coût, c'est qu'on coût avec des tranches de je sais pas quoi. » Hey, vous souvenez-vous de Wayne Gretzky qui est dans RBO, Rock et Belles Oreilles? Peut-être que nos auditeurs vont s'en souvenir. « Si tu ras, Cross a tear. Voilà. Mais bel effort pour Patty. Merci beaucoup d'essayer de parler
Steven McKinnon
français.
Et Carl Malenfant qui regardent le pauvre peuple pas avoir leur argent puis qui disent c'est un succès.
Un
c'est
grand
le
succès.
Même
Great
combat.
Success.
Great success. Après cette, dans un instant, Boulevard 102, on va parler avec Benoît Forget-Giasson, conseiller municipal du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10. On revient sur le moratoire à Lévis parce qu'il y aurait des poursuites d'entrepreneurs qui pourraient aller jusqu'à 30 millions de dollars pour la ville. 30 millions de dollars pour Lévis, c'est comme si les gens ici à Québec les poursuivaient pour 150 millions de dollars. C'est énorme ce qui se passe là-bas. Alors, on va revenir un peu sur le règne de Gilles Lehaulier. Est-ce que ça a été positif en fin de compte pour la ville de Lévis ou négatif? On en parle avec Benoît Forget-Giasson dans un instant, l'émission N'en jase à Boulevard 102.1.